Très bien. Du coup, Gwen, libraire l'Oiseau Lire à Évreux, donc pareil que toi, du coup, à Évreux, hein, on est tous les deux là. Et aujourd'hui, pour cette première émission, qu'est-ce qu'on a de prévu alors ?
Alors, dans notre émission aujourd'hui, on va parler d'un auteur anglais, 1960. Est-ce que ça te parle ?
Ah ouais, un peu, qui fait un peu de fantastique, je crois, de fantaisie urbaine.
Ouais,
un génie aussi. Hein,
qui a fait aussi des comics pour le coup. Alors, on va parler de Neil Gaiman, qui est un auteur qui nous parle à tous les deux.
Ah oui.
Et on va commencer avec son œuvre, je pense, la plus connue. De par son adaptation et aussi parce que c'est quand on pense à Neil Gaiman, on pense à deux titres, Sandman, qu'on va parler tout à l'heure, et American Gods.
Quand même, American Gods, quel bouquin, quelle magie ce livre, vraiment.
Tout à fait.
Je peux le pitcher. Est-ce que je peux le pitcher ?
Vas-y,
allez,
je te laisse,
je le pitch.
Je t'en prie.
Alors, American Gods, qu'est-ce que c'est ? On va suivre Ombre. Ombre, c'est un personnage qui sort de prison, donc c'est pas forcément le mec le plus sympa du monde, mais c'est pas forcément le plus méchant. On va découvrir que c'est un peu plus complexe que ça, sa vie. Et Ombre, il vient de tomber dans une guerre. Mais une guerre très étrange, c'est le cas de le dire. Il vient de tomber dans une guerre entre dieux. Bon, c'est bien pour ça qu'on s'appelle American Gods, quand même. À un moment, on parle de dieux. Mais surtout, c'est qui les dieux ? C'est les anciens dieux, donc la mythologie viking, vous savez, Thor, Loki, Zeus, la foudre, le machin, le truc. Et les nouveaux dieux. Qui sont nos nouveaux dieux, alors, hein, ici ? Le capitalisme. Et donc, c'est l'argent, la télévision, les autoroutes, les voitures et autres. Enfin, tous ces dieux-là. Et comment on distingue une guerre des dieux ? Bah, c'est facile, c'est la prière. Et chaque fois que vous allumez votre télé, enfin dans le roman je précise, hein, après ça dépend ce que vous faites de vos vies, chaque fois que vous allumez votre télé, par exemple, vous faites en quelque sorte une prière. Alors effectivement, basse-tête, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de gens qui prient basse-tête en Égypte que de gens qui prient leur télé le soir en regardant des bêtises ou des trucs très intelligents, selon vous. Donc voilà, c'est cette histoire-là de dieu, de guerre des dieux entre nouveaux dieux et anciens dieux. Et effectivement, les anciens dieux, comme vous vous en doutez, sont un peu... en sureffectif, mais aussi en sous-puissance, en quelque sorte, puisque comme, voilà, à moins que vous connaissez beaucoup de gens qui prient des temples Odin, des choses comme ça, mais après, voilà. Et c'est un roman génial, 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 génial. Vas-y, je t'en prie, Valentin, enchaîne là-dessus.
Je suis beaucoup bien d'accord avec toi. Je suis bien d'accord avec toi. Moi, la petite anecdote qui me fait toujours marrer sur ce bouquin, c'est que Neil Gaiman a tellement été bousculé par son arrivée en Amérique, de voir justement leur culte de la télévision, le culte de toutes les nouvelles technologies, entre guillemets, qu'ils en oublient un peu les anciens dieux. Et il s'est dit, c'est là que le concept du livre lui est arrivé en disant, ah bah tiens, que se passerait-il effectivement s'il y avait une guerre entre nouveaux dieux et anciens dieux qu'on a un peu mis de côté, les dieux de l'ancien continent.
Bah en même temps, oui, comme je disais, hein, tu connais beaucoup de gens qui prient basse-tête encore.
C'est ça. Il y a eu le film Black Panther là qui
ah, arrive, tu peux remettre son culte au goût du jour.
Mais
la Catwoman. Et donc vas-y, donc pour l'adaptation, alors l'adaptation, dis-moi tout.
L'adaptation, moi j'ai vu que la saison 1, j'ai entendu dire que les deux saisons d'après étaient un peu moins bonnes.
Ouais.
Mais dans la saison 1, il y a un passage moi que j'adore, que j'ai même en t-shirt chez moi, parce que c'est le passage, bon c'est un petit spoil, mais au moment où on apprend l'identité de Mr. Wednesday, où Shadow apprend qui est Mr. Wednesday, parce qu'on n'a pas parlé de Mr. Wednesday.
Ah bah non,
mais
c'est...
Oui, mais c'est un
et Shadow,
personnages...
c'est Ombre, hein, c'est juste la traduction
oui, voilà.
Française. Hein. Shadow, forcément, Ombre. Hein.
Ouais, parce que j'ai vu la série en VO, c'est pour ça que j'ai
ouais, oui,
j'ai
non, plus Shadow. Je précise que
et
dans le roman, c'est Ombre.
Du coup, ce passage-là, je ne vais pas dire qui est Mr. Wednesday, mais ce passage-là, tout ce monologue de ce personnage-là, j'ai adoré cette scène-là, parce que c'est très bien retranscrit ouais. Justement dans la série. Et les personnages sont tellement hauts en couleur, je pense notamment à le farfadé Cernobog.
Le lutin irlandais, qui est pas vraiment lutin irlandais,
c'est ça,
mais bon.
Avec son gros marteau.
C'est ça.
Et vraiment, cette série,
mais du coup,
la première saison est très très bon.
Ouais.
Excuse-moi, je t'ai coupé.
Non, vas-y, fini.
Mais j'ai pas eu le temps de voir malheureusement les deux et saison 2 et 3. Après, on n'a pas dit forcément du bien, donc j'ai pas eu forcément envie d'y aller.
Non, c'est sûr.
Mais en tout cas, la première saison, je la conseille vraiment, ne serait-ce que pour ce passage qui, pendant un moment, je le connaissais par cœur tellement ces phrases sont iconiques.
Bah, vous allez vous en douter très vite. On a envie que vous les lisiez, que les regardiez, les adaptations de Neil Gaiman. Hein, vous inquiétez pas. Donc, tout ce qu'on va dire, forcément, ça va vous donner envie. On espère. C'est le but du jeu.
Oui.
Mais juste pour te dire, justement, sur les personnages en couleur, moi, je trouve que c'est déjà un des trucs de Neil Gaiman qu'on constate. C'est qu'il nous crée des personnages, et on va en parler pendant encore plus pour Sandman, je pense, mais c'est ces personnages que j'aime beaucoup qui sont hors du temps ou hors de l'espace. Moi, quand je dis ça, je passe à plein d'autres personnages, bien sûr, que ce soit American Gods ou même d'autres romans. De Neil, c'est qu'en fait, il va nous créer des personnages comme ça qui sont pas au-dessus des dieux, parce que dans American Gods c'est des dieux, mais qui sont reliés en quelque sorte à l'espèce humaine, mais sans qu'on sache trop pourquoi, qui sont au-dessus de l'espèce humaine. Et moi, à chaque fois, c'est une expression que j'ai pour Neil Gaiman, c'est que Neil Gaiman, il décrit les bots, alors que nous, on est les fourmis. Et vraiment, il a ce côté-là, c'est-à-dire qu'il décrit une botte. Et il le fait dans Sandman, il le fait dans American Gods, il le fait dans Neverwhere, il le fait dans L'Océan au bout du chemin qu'on parlera aussi. Mm. Bref, il a cette capacité que je trouve extraordinaire à décrire une botte. Je sais pas comment dire, c'est vraiment, la botte s'occupe pas de la fourmi, elle lui marche dessus. Et ben, ces personnages à Neil Gaiman, on sait pas pourquoi, mais ils arrivent à être crédibles en étant supérieurs.
Et en plus, je rajouterais que quand il parle de petits gens, enfin des gens de la vie de tous les jours, il le fait très très bien. Je pense notamment à Part Bonheur le lait dont on parlera tout à l'heure, qui est superbe, qui est très absurde et ce n'est pas justement comme il a l'habitude de faire des personnages très au-dessus de nous finalement. Et
tout à fait. Et ça m'emmène, du coup, c'est cool, ça me permet d'enchaîner sur le suivant qui est dans l'univers. Donc, c'est pour ça, là, on va enchaîner un peu sur cet univers-là, qui est un petit roman, une petite nouvelle qu'il a faite il y a quelques années, d'ailleurs, je ne vais pas regarder la date parce que voilà, vous savez, moi, les dates, qui s'appelle Le Dogue Noir.
Alors, c'est en 2016 pour la version originale et 2018 pour la version française. Ouais. Moi, j'ai fait mon boulot.
Ouais, j'avoue. Moi, je l'ai lu, c'était plus intéressant, je trouvais. Donc, Le Dogue Noir de Neil Gaiman, on va suivre Ombre, et du coup, on parlait des personnages humains, et ben là, on est totalement dans le cas, puisqu'on retrouve Ombre, alors donc le personnage d'American God va être dans 2-3 nouvelles comme ça, hors du temps, c'est-à-dire qu'on suit, on va retrouver Bastet, notamment, je parlais de Bastet tout à l'heure, mais elle est dedans aussi, en quelque sorte, mais voilà, on va retrouver des personnages comme ça, mais sans que ce soit réellement relié, c'est-à-dire que si on n'a pas lu American God et qu'on lit Le Dogue Noir, c'est bon, on peut le lire, c'est pas un problème, c'est juste que American God est tellement bien, encore une fois, c'est dommage de passer à côté. Et du coup, il se retrouve en Angleterre, Ombre, dans un petit village où tout le monde a des chiens et tout ça, et on raconte un peu cette légende très Sherlock Holmesien, on va dire, parce qu'on est très dans les landes anglaises, d'un chien démoniaque noir, un chien de l'enfer en quelque sorte, c'est clairement un chien de l'enfer d'ailleurs, qui, quand on le voit, normalement on meurt, quoi. Donc ce qui est pas terrible. Et lui, il s'en fout un peu, Ombre. Après ce qu'il a vécu dans American Gods, je peux vous dire qu'un chien de l'enfer, ça lui fait ni chaud ni froid, c'est le cas de le dire. Mais par contre, il va trouver une femme, une jeune femme là-bas, et avec qui il va parler. Et on va comprendre très vite que cette nouvelle va basculer un peu dans le fantastique. Et quand on parle de petites gens, et ben c'est exactement ça. Parce que tout le village est rempli de ces gens normaux, pour une fois. Vraiment. Sauf, bien sûr, quelque chose, mais que je dirais pas, toujours pareil, cherchez pas, je ne commenterai jamais à la fin des livres. Donc en fait c'est ça, c'est une petite nouvelle fantastique dans l'univers de Ombre, on va dire, mais qui n'a totalement rien à voir avec un chien de l'enfer. Et c'est assez génial. Et je vous avoue, je l'ai relu hier, parce que je l'avais chez moi, je l'ai relu hier et j'ai fait. Mais qu'est-ce qu'il écrit trop bien ?
Et pour le coup, dans le côté traitement aussi des personnages simples, la femme de Ombre est aussi très bien traitée. C'est un des personnages les plus intéressants, je trouve,
oui, du roman. Tout à fait. Et pourtant qui est tout à fait
et aussi
normal.
Dans la série, pour le coup.
Qui est tout à fait normal.
C'est ça.
Voilà. Donc ça, c'est la première partie, là, un peu American God, vous voyez. Alors, ne bougez pas. Donc, une petite partie sur la jeunesse qu'il a fait, parce qu'il a fait énormément de choses, Neil, comme on le disait, on va encore parler de tout ce qu'il a fait. Mais là, je vais vous faire un petit partie sur ce qu'il a fait en jeunesse, puisqu'il est aussi connu en jeunesse, cet homme. Notamment, il est connu en jeunesse pour Coraline, bien sûr. Qui a été adapté par Henry Selick, je crois, L'étrange Noël de Monsieur Jack, notamment. En film, on est d'accord, hein, c'est ça, merci Valentin. Donc Coraline, qui est un Alice au Pays des Merveilles, version...
Version glauque.
Ouais, c'est ça. Version Tim Burton, justement. Du coup, version Tim Burton, puisqu'en fait, on va suivre une petite fille, donc Coraline, qui vient de déménager dans un patelin. Du coup, comme beaucoup d'enfants qui déménagent, parfois, elle n'a pas d'amis, du coup, sur place. En plus, le patelin n'est pas terrible. Et puis, en plus, ses parents s'occupent pas d'elle, parce qu'ils sont en plein déménagement, faut qu'ils bossent, machin, bref. Bon, elle est seule, quoi, elle s'ennuie, quoi. Et puis le gamin d'à côté, il a pas l'air très intelligent, quoi. C'est un garçon, et puis, il a pas l'air super malin, quoi. Puis là, elle trouve une petite porte au fond. Alors, je crois que c'est un chat qui l'y emmène au départ, cette petite porte. Et elle passe la porte, un peu comme Alice au Pays des Merveilles, c'est pour ça que je reprenais ça. Et dans cette porte, c'est génial. Ses parents sont comme ses parents à elle, c'est les mêmes. Un peu bizarre quand même, mais ils s'occupent d'elle. Ils sont attentifs à tous ses besoins, vraiment tous ses besoins. Puis ils veulent pas qu'elle parte, et elle a pas envie de partir. Enfin, si, à un moment, elle a quand même envie de partir. Et puis, ils veulent vraiment pas qu'elle parte. Et vraiment, vraiment pas. Et puis, vraiment, ils ont l'air un peu vraiment plus bizarres, en fait, que les vrais. Puis, en fait, peut-être qu'elle va partir. Si on lui laisse partir. Voilà. C'est un Alice au Pays des Merveilles très glauque et très Tim Burtonien, justement. Donc, c'est certainement pour ça qu'il a été adapté en film. Et de toute façon, dans ce qu'il fait en jeunesse, alors, je vais parler aussi de Nobody Owens, bien sûr. Dans ce qu'il fait en jeunesse, c'est souvent très baroque. Ce que j'appelle, moi, baroque, c'est ça. C'est le côté très Tim Burton, un peu classique. un peu classique romantique, un peu avec avec tout cet univers-là. Et je le trouve assez génial. Alors, je sais pas si t'as quelque chose à dire sur Coraline. Est-ce que tu veux parler du film d'animation qui était assez génial aussi ou...
Alors, juste que ça faisait effectivement flipper. Pour le coup, je vais juste dire le mot bouton. Ceux qui l'ont vu comprendront la référence. Ceux qui ne l'ont pas vu, bah, je vous laisserai découvrir.
C'est ça. Donc, dans la même veine, il y a deux livres qui se suivent d'ailleurs de ça. Ça s'appelle Nobody Owens et La Belle et le Fuseau. On va commander par Nobody Owens, qui est un autre roman comme Coraline, pour un peu plus grand quand même, parce que c'est un roman qui était un peu plus ado, Coraline étant du 10 ans. Et Nobody Owens, on est plus sur du 13-14, on va dire. Voilà. Et adulte, bien sûr. Tout ce qu'on va raconter, tout ce que Neil Gaiman a fait, hormis cette partie sur la jeunesse, de toute façon, est lisible par tout le monde, adulte, bien sûr. C'est souvent de l'adulte même. Donc en fait, dans Nobody Owens, on suit un petit garçon, ses parents sont morts, tragiquement d'ailleurs, on va le suivre dès le début du roman, c'est pour ça, là je spoile pas. Il meurt, il est chassé par un homme, étrange homme, un mix entre Jack l'Éventreur et Hulk d'ailleurs, a priori. Bref, et un loup-garou, on sait pas trop, vraiment. Et il retrouve, et il va être sauvé par quelqu'un, et il va retrouver refuge dans un cimetière. Un lieu étrange, on va dire, mais il va vivre dans ce cimetière en compagnie par des fantômes. Donc c'est un garçon qui vit dans un cimetière au milieu des tombes, et sa meilleure amie est une sorcière brûlée au Moyen-Âge, ses parents sont deux fantômes. Et il a une vie normale. Sauf que bien sûr, il est en manque des humains. Il arrive à 8-10 ans, je crois. On est au début du roman, c'est 8-10 ans, voire 11. Je l'ai lu il y a très longtemps, je vous avouerai quand même. Mais du coup, il est en manque. Il est en manque de contact humain, quoi. Parce que des fantômes, c'est cool, mais les câlins, c'est pas pareil, quoi. Et la copine sorcière, c'est sympa, mais bon, ça reste un fantôme. Et du coup, il va tomber sur une petite fille et il va commencer à devenir ami avec elle. Le problème, c'est ce qu'il ne sait pas et ce qu'il n'a pas encore conscience, c'est que la personne qui a tué ses parents le cherche. Pourquoi? On va le découvrir, ça faudra le dire aussi pour le savoir. Mais le cherche et le veut encore, même des années plus tard. Elle veut le tuer, elle veut le pourfendre, clairement. Et donc, on va comprendre pourquoi Nobody Owens, et donc Nobody Owens, pourquoi il s'appelle comme ça? Parce que Nobody n'est personne, puisqu'il vit dans un cimetière, il n'est réellement personne. Et Owens, c'est le seul nom qu'il reste de famille qu'il a trouvé. Enfin, qu'il y a des gens qui l'ont trouvé. Donc, c'est super intéressant, et encore une fois, c'est très baroque, puisqu'il y a tout ce côté cimetière fantôme, tout ce côté un peu glauque. Et du coup, voilà, super roman pour ado. Moi, j'avais beaucoup aimé à l'époque. C'était un roman qui m'avait vraiment beaucoup perturbé aussi, encore une fois. Mais parce que j'aime beaucoup ce que fait Nobody Owens quand il parle d'enfance aussi. J'aime beaucoup quand il fait Coraline et tout ça, parce que c'est des messages sur l'enfance qui devient adulte, ou la difficulté d'être un enfant aussi. Et je trouve que le message derrière est vachement intéressant, couvert de cette fantaisie et de ce fantastique, en fait.
Je vais noter aussi qu'il y a eu une adaptation en bande dessinée qui est sortie graphiquement, qui était très belle. J'ai pas eu le temps, malheureusement, de le lire entièrement. Elle a été rééditée là cette année et graphiquement c'était vraiment très très joli. Donc si vous préférez plus le lien en BD, il est aussi disponible en version BD.
Ah, et ça c'est cool aussi. Et donc le petit dernier avant de changer de thème, encore une fois, c'est La Belle et le Fuseau, illustré par Chris Riddell. Chris Riddell, c'est un vieil illustrateur que j'aime beaucoup aussi. Enfin, vieil illustrateur, j'ai l'impression de parler d'un mec qui a fait la guerre, mais qui a quelques années maintenant dans l'illustration et que je trouve très très drôle aussi. Et La Belle et le Fuseau, c'est une belle au bois dormant qui s'est réveillée, donc tout va bien. Donc on lui a dit de se marier, elle a pas envie. Et du coup, elle entend parler d'un autre royaume où une jeune princesse est, pareil, tombée dans les vapes, quoi, pareil, royaume maudit comme elle, quoi. Donc elle se dit, bah pas de problème, j'ai pas envie de me marier, donc je vais me faire une dernière aventure avec mes copains nains qui sont résistants à magie. Moi, je viens de me réveiller à un sommeil de 100 ans, clairement, j'ai pas envie de dormir, je suis immunisé. Je pense que je suis immunisé à ce genre de sort. Et hop, elle est partie avec son armure, donc ça va être un récit assez féministe d'un côté, puisqu'on a ce côté femme qu'on veut épouser. C'est un très beau conte, un peu glauque, bien sûr, et encore une fois, très romantique baroque, puisqu'on va se balader dans ce royaume endormi, avec des gens devant leur soupe, vous savez, avec la cuillère dans la bouche, en mode... voilà, des toiles d'araignée qui poussent sur les oreilles des gens, enfin bref, le classique, pour découvrir la chute, et je vous la cacherai encore une fois, sinon c'est pas drôle. C'est un superbe conte pour les plus grands, alors c'est du 8-10 ans ça. C'est du conte, voilà, très classique en fait sur la construction, parce que comme je vous dis, c'est une belle au bois dormant et des nains, voilà, rien à dire de plus. Sauf que vous allez voir que quand c'est du Neil Gaiman qui fait quelque chose, il y a toujours un truc à dire de plus. C'est fou ça. Je sais pas comment il fait, mais il y a toujours ce petit truc en plus. Voilà, donc ça c'est la petite partie jeunesse. Il me reste Chill Panda à vous raconter, mais ça je vous le raconterai peut-être un petit peu à la fin, c'est un tout petit album pour les tout petits. Je vous le raconterai peut-être à la fin. Allez, soyons, si vous êtes sages.
On va passer à la deuxième œuvre la plus importante de Neil Gaiman pour moi, qui lead la bande dessinée, c'est Sandman. Sandman, vous en avez forcément entendu parler cette année, puisqu'il y a eu une très belle adaptation sur Netflix, qui est pour ma part, pour avoir lu le comics et vu la série, très bien réussie.
Ouais.
Les acteurs choisis sont très très bons. Il y a rien à dire, vraiment, il y a certains épisodes que je savais qui étaient dans le comics. Quand je les ai vus arriver en plus en, en live, c'est d'autant plus glauque. Je pense particulièrement à un épisode.
Ouais, on pense au même, t'inquiète.
Donc j'en dirai pas plus pour ceux qui n'ont pas vu, mais vraiment regardez la série.
Lisez aussi. Bien sûr.
Lisez le comics et regardez la série. Sandman, ça parle de quoi? Ça parle de Lord Morpheus, donc qui est un des infinis, donc qui sont des entités qui représentent des concepts. Donc Lord Morpheus représente le rêve. Et en voulant un humain, en voulant capturer sa sœur, donc Death, va capturer Dream, pardon, donc Sandman, pendant 100 ans.
Oui, Sandman, c'est vous voyez en anglais ce que ça veut dire, Sandman, je pense.
C'est le marchand de sable.
Voilà. Sauf que parfois, quand il se réveille, il met des coups de pelle. C'est le cas de le dire.
C'est ça. Et du coup, pendant 100 ans, l'humanité n'a pas accès aux rêves. Et donc, l'humanité va partir vraiment en vrille parce que, justement, l'humanité ne peut plus rêver. Que ce soit rêver ou cauchemarder, d'ailleurs.
Oui, parce qu'il fait les deux.
C'est
quand
ça.
Quand on parlait d'être supérieur, justement, Sandman est vraiment un très bon exemple de ça. Je me permets, Valentin, vite fait. Vas-y. C'est vraiment un très bon exemple de ça, puisque tous les personnages qu'on va découvrir, donc pareil, on ne va pas trop vous en dire sur les différents personnages, qui les infinis, pas trop vous en dire, parce qu'il ne faut pas gâcher la surprise. Mais voilà, c'est exactement comme je disais tout à l'heure pour American Gods, c'est ça, les personnages de la botte. C'est-à-dire que Sandman, bah, quand vous lisez le comics ou quand vous regardez la série, vous allez découvrir qu'il n'en a rien à battre de l'humanité. C'est peut-être le seigneur des rêves et des cauchemars, puisque le rêve global, mais c'est une botte. Clairement, c'est une botte, et nous, on est les fourmis en face de lui. Et ça se voit d'ailleurs dans la série, c'est très bien fait, c'est très bien ressenti d'ailleurs.
Surtout quand il va vouloir récupérer ces trois artefacts qui lui ont été volés quand il était en captivité. Et vraiment, c'est un comics qui est très puissant dans ce qu'il véhicule, parce que ça parle, c'est sorti dans les années fin 80, et ça parle déjà de sujets comme le racisme, comme la transidentité, comme plein de sujets actuels qui justement ont fait un peu hurler les gens au moment de la sortie de la série sur Netflix, sauf que l'auteur lui-même, Neil Gaiman, a dit bah en fait ces sujets-là étaient déjà présents dans le comics de base. Et donc, si vous dites fan de la série et vous critiquez parce qu'il y a une actrice noire, parce que si, bah c'est que vous n'êtes pas des vrais fans de Sandman. Donc, je conseille à tout le monde de lire cette
d'ailleurs BD. Rend la série et même le comics parfois assez inégal, parce que justement, tu parlais de trucs glauques. Il y a des épisodes comme dans le comics qui sont effectivement très choquants pour l'esprit humain, si je puis dire. Ils sont très perturbants. Et t'en as d'autres qui sont, au contraire, tellement mignons, si je puis dire.
C'est ça.
Mignon, je sais pas, mais beau et tendre.
Je pense, sans aller très loin dans l'histoire pour laisser les gens le découvrir.
Ah, bien sûr.
Mais l'épisode avec justement la mort.
Oui, oui,
trouve que c'est des épisodes, que ce soit dans la série ou dans le comics, qui est le plus beau.
Ouais, ouais, mais c'est pour ça que je suis totalement d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que ce comics et cette série, du coup, fait que c'est parfois assez inégal, parce que tu te retrouves avec un épisode, que ce soit dans le comics que j'ai lu aussi depuis, que de la série, où t'as des épisodes où vraiment, moi je sais que j'ai refermé la BD, où j'ai éteint ma télé en mode waouh, ok, alors je vais me coucher parce que vraiment ok, et t'as un dos où t'es là, t'as envie de pleurer quoi, parce que c'est beau. Et c'est vrai que ça nous donne une série qui est magnifique, qui est assez inégale, mais qui en même temps est tellement forte de l'esprit de Neil Gaiman aussi, hein, soyons honnêtes. Hein.
Bah clairement, Neil Gaiman a été showrunner sur la série et ça se ressent.
Tout à fait. Tout à fait. Il était, oui, il a participé à la série parce qu'il n'avait pas participé à American Gods, je crois.
Non, c'est ça.
On est d'accord.
C'était très drôle. C'est sur Twitter, quelqu'un lui dit oui, American Gods, c'était pas terrible. J'ai peur que Sandman, ce soit pareil. Et Neil Gaiman de répondre bah, en fait, sur Sandman, je suis showrunner. Sur American Gods, je ne l'étais pas.
Voilà
la différence.
Donc, c'est vrai que donc, Sandman, vraiment super série, super saga à lire. D'ailleurs, vraiment très bonne saga. Mais je vous dis, voilà, moi, avec ce côté-là, je trouve que, voilà, encore une fois, Sandman, il présente un truc, c'est la botte, quoi. J'ai pas d'autres images, c'est con, mais j'arrive pas à trouver d'autres images qui soient plus parlantes que ce côté crédible, en plus, de ce personnage.
Ça. Et je vais souligner aussi que Sandman, c'est dans l'univers de Vertigo, donc dans l'univers DC.
Oui.
On voit des personnages de l'univers, on voit Batman, on voit, Etrigan, on voit des personnages de l'univers DC.
John Constantine.
Je ne voulais pas le spoiler pour les gens, mais merci Gwen.
Ce personnage-là, il est fun.
Oui.
Arrêtez, il est fun. On l'attend tous, le John Constantine 2 au cinéma, arrêtez.
Alors, non.
Non, bon, d'accord, non. Okay. Il y a que moi, alors. Il y a que toi.
Et du coup, c'est pour ça que la série Lucifer, qui est aussi sur Netflix, est en fait un dérivé de Sandman. c'est pas le même, même acteur qui joue dans, dans les deux, mais la série Lucifer, c'est pour ça que Neil Gaiman est crédité, parce que c'est dérivé de la série de Sandman.
Voilà. Donc voilà, Sandman, grosse, grosse, grosse série. Et puis on va rester tout de suite dans le thème des, des adaptations. Vous allez voir. Pour parler, bien sûr, de Good Omens ou de Bon Présage en français. Dans le domaine des adaptations, bon, Valentin va nous parler après de l'adaptation télé. Je pense que tu l'as vu, tu savais pas si tu avais lu le roman, je me souviens plus.
Non, j'avais pas lu le roman, donc, mais effectivement, j'ai vu l'adaptation et l'adaptation est pareil, très très bien. Je te laisse parler du roman.
Alors, je vais parler vite fait du roman, donc c'est pareil, c'est fait avec un autre grand. On pourrait faire une émission sur lui. Enfin, je crois que je pourrais faire trois émissions sur lui. C'est Terry Pratchett. Terry Pratchett, c'est un génie. Voilà. Pareil que Neil Gaiman, vous voyez, dans le même genre. Terry Pratchett. Le Disque Monde. Si ça vous parle pas, je peux rien faire pour vous. Mais faut vous renseigner parce que c'est vraiment génialissime. Et Terry Pratchett est un génie de l'humour anglais aussi, comme Neil Gaiman. Quand il s'y met, il fait pas que du fantastique un peu glauque, un peu étrange. Il fait aussi de l'humour. Et dans De Bons Présages, c'est ça, l'histoire. L'histoire, c'est quoi? C'est que l'humanité, c'est l'apocalypse, c'est bon. C'est fait. Allez hop. C'est signé. Les dieux, le diable, dieu, diable, ils se sont mis d'accord. Ils ont fait allez, c'est signé, c'est acté là. Ok, donc il y a un ange et un archidiable, enfin bref, qui sont sur Terre, qui sont là pour gérer que l'apocalypse se passe bien. Ouais, et déjà, ils ont pas envie, quoi, parce qu'ils sont habitués à leur vie humaine, hein, finalement. Ils s'éclatent bien comme ça, quoi. Et puis en plus, ils se sont plantés, ils ont oublié le gamin. Ils savent pas où est l'antéchrist. Ils ont perdu l'antéchrist. C'est chiant. Et donc, on va les suivre, ces deux-là, ces deux personnages, bah encore une fois, des personnages complètement déviants, soyons honnêtes. C'est des personnages déviants, de diable et de dieu. Et c'est génial. C'est bourré d'humour. Alors, on retrouve plus un Neil Gaiman humoristique. Mais ouais, voilà, c'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie.
Et pour le coup, l'adaptation est tout aussi barrée. On retrouve en plus Martin Freeman et David Tennant en ange et en démon respectivement. Et vraiment, les acteurs ont été créés pour ces rôles-là, clairement. C'est drôle, c'est aussi... bourré d'action, parce que on se retrouve quand même à devoir empêcher l'apocalypse. Et c'est une des séries aussi où Neil Gaiman a été consultant. Et ça se sent. C'est-à-dire que vraiment, c'est une des très bonnes séries. Et pour le coup, il va y avoir un Good Omens 2 qui, tout le monde a dit, mais il y a eu qu'un seul roman, c'est pas normal. Sauf que c'était dans les projets de Terry Pratchett et de Neil Gaiman de faire une suite à de Si Bon Présage. Et donc, il va y avoir une saison 2 et j'ai vraiment hâte de la découvrir parce que les personnages et l'histoire étaient tellement bien que ça ne peut être que intéressant de découvrir la suite.
Donc voilà pour le domaine des adaptations de Neil Gaiman. Et là où il a bossé dedans, bizarrement, les séries sont trop bien. C'est fou ça. C'est dingue, ce mec est un génie. Quand je dis que Neil Gaiman c'est un génie, pour moi, c'est quelqu'un de...
Je vais citer juste pendant deux secondes l'épisode de Doctor Who, justement, qui s'appelle L'âme du TARDIS, qui est pour moi l'un des meilleurs épisodes de Doctor Who.
Qui a eu des prix d'ailleurs du scénario.
Mais c'est ça, parce que on sent la patte de Neil Gaiman.
C'est ça.
Quand j'ai vu l'épisode, je me suis dit, c'est bizarre, mais la patte, ça me rappelle quelqu'un. J'ai été chercher qui l'avait écrit, je fais, ouais, ça me surprend pas.
Voilà.
C'est super, la personnification justement du TARDIS. Et vraiment, c'est l'un de mes meilleurs épisodes. Enfin, je
l'ayant vu aussi, oui,
ouais,
je suis d'accord.
C'est vraiment un des meilleurs épisodes de la série. Je pense.
Et il en avait fait un autre d'ailleurs. Il avait fait le Super Planificateur que j'avais pas vu celui-là par contre.
Je l'avais vu et pareil, on sent la patte de Gaiman, clairement.
Mais voilà, Neil Gaiman, je pense que c'est le genre d'auteur qui doit être super frustrant pour ses potes. Vous êtes pas auteur, vous savez. Parce que lui, il fait une BD, il fait un comic, c'est le meilleur comics de l'année. Il fait de la jeunesse, c'est des super bouquins adaptés en film. Il fait des romans adultes, c'est des super tueries puisque c'est adapté partout. En fait, je pense que ses potes auteurs doivent être là. Tu veux pas prendre une pause? Ça nous arrangerait, en fait.
On a besoin
c'est chiant, en fait. Il faudrait qu'on mange, nous aussi, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les petites adaptations. Donc, on va continuer tout de suite. J'aime beaucoup celui-là. Donc, on va continuer tout de suite avec une petite adaptation faite, si je puis dire, une adaptation puisque illustrée par un auteur français, notre ami Boulet. Par bonheur le lait. Alors juste, je vais en parler vite fait 5 minutes et après je te laisse la main. Par bonheur le lait, parce que juste pour le pitcher, je vous jure, c'est très drôle. Alors pour ceux qui ont des enfants surtout, on va s'adresser quand même à ceux qui ont des enfants plutôt, ou même qui ont des amis particuliers, si je puis dire, puisqu'en fait, Neil Gaiman a imaginé, en fait, chaque père qui va chercher une bouteille de lait le matin ou un truc le matin aux courses parce qu'il n'y a plus, et qui revient 10 minutes plus tard, un quart d'heure plus tard, en rencontrant une aventure un peu extraordinaire, En mode, il y avait ma mie devant la caisse, machin. Enfin bref, ça a perdu du temps, j'ai été bouché, machin, tata. Et là, lui, imagine une histoire extraordinaire. C'est-à-dire qu'il va se faire kidnapper par des extraterrestres, il y a des pirates volants, des trucs, des machins. Mais par bonheur, il ramène le lait. C'était ça, la base, le truc. Et c'est illustré par Boulet, je t'en prie, Valentin, enchaîne. Ah, mais
c'est magnifique. Moi, quand j'ai vu arriver ce livre-là, quand j'étais en apprentissage, il y a maintenant 6-7 ans, j'ai vu... Le combo Neil Gaiman-Boulet, j'adore Boulet, j'adore Neil Gaiman, je me suis dit, je vais le lire, même si c'est de la jeunesse, je vais le lire, et je me suis marré. C'est-à-dire que c'est très absurde, c'est vraiment, j'ai pas pu, enfin, j'ai pris du temps pour le lire, parce que ça, et c'est très drôle. C'est vraiment, et puis en plus, illustré par Boulet, qui est un des auteurs de blog BD que moi, j'adore, parce que c'est justement aussi un trait du quotidien, finalement. Et j'adore ça. Je dois bien avouer que je suis un petit peu jaloux parce que la version anglaise, enfin américaine, a Scotty Young qui est le monsieur bébé de l'univers Marvel. Et ça me fait marrer de me dire que c'est ce mec-là qui a fait aussi une de mes séries coup de cœur en comics, Hyde Fairland, et de me dire que c'est ce mec-là qui a fait les dessins. Je suis un petit peu jaloux du coup qu'on l'ait pas eu en français, même si j'adore Boulet. Voilà.
Et pour rester chez Boulet, si je puis dire. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais pour rester dans Boulet qui a illustré quelque chose de Neil Gaiman, pareil, j'ai trouvé des choses chez moi. Moi, quand je prépare une émission, vous voyez, je retrouve des livres. J'ai retrouvé un recueil de poésie qui s'appelle Tous Malades chez Bragelonne. Alors, c'est très vieux comme recueil de poésie, donc c'est pas des poésies de Neil Gaiman.
Ça se voit d'ailleurs, il tombe en lambeau le bouquin.
C'est ça, puis dedans aussi, ça tombe en lambeau. Hein. Mais bon, c'est parce que c'est des zombies. C'est un recueil de poèmes récupéré par Neil Gaiman et Stephen Jones. Donc, c'est pas eux qui ont fait les poésies, mais c'est eux qui ont récupéré les poèmes. Illustré par Boulet, Clive Barker. Monsieur de la fantastique américain, Melaka et Renou, qui sont des potes à Boulet en général, du coup, dans mes souvenirs en tout cas.
Tout à fait.
Voilà. Et qui sont des poèmes fantastico-glauques. Donc, c'est assez génial. Mais par contre, c'est une ambiance un peu étrange. C'est le cas de dire tous malades, c'est pas pour rien, quoi. Si vous vomissez du sang, c'est normal, c'est peut-être parce que votre voisin vient de vous empoisonner pour vous bouffer derrière, quoi. En gros, c'est ça, les poèmes. Hein. Je vous avoue que vraiment, cherchez pas. C'est des poèmes comme ça. Donc, ça reste dans les thématiques Boulet, justement. Je crois qu'il avait fait avant de faire par bonheur le lait, d'ailleurs. Si je me trompe pas,
mais oui, bon, bref, il me semble, oui.
C'est pas très très grave non plus. Ça va pas changer la face du globe, comme dirait quelqu'un. Mais voilà, c'est un petit recueil de poèmes très drôles récupérés. Je sais pas si c'est encore dispo. Je vous mets ça comme petite pépite. Vous voyez, je vous balance ça, la petite pépite là. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les adaptations faites par Boulet d'ailleurs. On continue, on reste dans la même thématique que Boulet en ce moment. Et il nous reste alors quelques minutes du coup. Ouais, 2 minutes. Il nous reste ça. On a à l'aise le temps. J'ai même le temps de vous raconter Chill Panda, je suis sûr. Je suis trop fort. Avec Valentin, pour vous parler de L'océan au bout du chemin, par exemple, que j'aime beaucoup, on peut en parler d'autres aussi, si tu veux, Valentin, vas-y, hein. Soyons-nous plaisir. Mais je sais pas si tu te souviens de L'océan au bout du chemin.
J'avoue que j'avais beaucoup aimé au moment de la lecture, mais le pitch, je pourrais plus trop le faire, parce que c'est vrai que ça commence à dater. On peut parler de Neverwhere, qui est aussi très très
aussi.
Bon. Qui est l'un des premiers romans de mémoire de Neil Gaiman, qui donne l'esprit déjà...
C'était une mini-série britannique.
C'est ça, et qui a été adaptée en roman, et qui donne déjà le ton de son côté fantastique, de les choses sont un peu cachées, parce que Neverwhere, on est sur le Londres d'en dessous, donc on suit un homme qui travaille dans les bureaux, Richard Mayhew, qui va découvrir le Londres d'en dessous par une porte...
Par porte,
voilà, littéralement, c'est ce que j'allais dire. Et c'est vraiment un petit bijou de fantasy. Je vous le conseille vraiment parce que c'est l'un des premiers romans de Neil Gaiman et on sent déjà sa patte.
Ouais, tout à fait. Et sur Neverwhere, donc il va découvrir le monde d'en bas parce qu'en fait il disparaît du monde d'en haut. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il s'ouvre porte, on va découvrir qu'il a plus de vie. Sa carte bleue n'est pas reconnue, sa femme ne le reconnaît pas non plus d'ailleurs, et ainsi de suite, quoi. Donc en fait, il découvre le monde d'en bas parce qu'il n'a pas le choix, en fait. Parce que Porte, a priori, lui a piqué sa vie. Enfin, il ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais il va le découvrir et vous allez le découvrir aussi, j'espère. C'est un des premiers romans que j'avais lu de lui, que je trouvais génial. Et pour L'océan au bout du chemin, j'ai une petite anecdote, je vais vous le pitcher vite fait, vous inquiétez pas, j'ai une petite anecdote. Moi, les rares fois où je vais à Paris, parce que j'aime pas Paris et le métro en général, j'avais pris ce livre-là pour le lire et je me souviens parce que j'avais 4 stations à peu près pour aller à la gare, je crois, un truc comme ça. C'était une réunion d'éditeurs, quoi, bref. Et je me perds dans le livre, quoi. Vraiment. C'est-à-dire que L'océan au bout du chemin m'a happé. Et je me suis retrouvé à l'autre bout du monde. Et moi, dans ma tête, comme je suis pas parisien.
L'autre bout du monde, c'est pareil, hein, quand même, hein.
C'est ça. Mais comme dans ma tête, je suis pas très intelligent. Parce que je suis pas habitué. Dans ma tête, j'étais là, genre, qu'est-ce que je vais faire pour rentrer? J'avais pas compris, je pouvais prendre le métro dans l'autre sens. Ouais, je suis un peu rouillé comme garçon sur le métro parisien. J'étais là, genre, mais mon dieu! Au secours, aidez-moi. Merci Neil Gaiman de m'avoir fait paumer mon histoire. Bref, et l'océan au bout du chemin, c'est encore une fois, c'est le passage de l'enfance, comme il a beaucoup fait d'ailleurs, je trouve, dans ses pas mal de livres, il y a le passage de l'enfance à l'état adulte. C'est un garçon qui revient suite à un enterrement dans les terres qu'ils l'ont vécu, qu'il a vu grandir, en ayant perdu la mémoire, mais en ayant occulté certains souvenirs. Et il va les reprendre en pleine gueule. C'est le cas de le dire, puisqu'il va retrouver Letty, son amour en quelque sorte de jeunesse de quand ils avaient 7-8 ans, qui lui racontait que la mare au bout du chemin, c'était un océan. Qu'il y avait des créatures. Et effectivement, il va rencontrer des créatures quand il est enfant. Il va rencontrer aussi des choses étranges humaines. Un homme qui vole la voiture de ses parents pour se suicider à l'arrière. C'est son premier cadavre qu'il voit alors qu'il a 7 ans. En fait, c'est tous les traumatismes de l'enfance qui va nous parler. Et Letty qui va nous parler aussi de comment elle vit les choses. C'est un roman qui était vraiment perturbant d'un côté, bien sûr, mais qui était génial sur le côté fantastique. Encore une fois, je me souviens encore de ces trois grâces qui cousent les vêtements. Enfin bref, lisez-le. C'est du Neil Gaiman tout craché encore une fois. Mais sauf que là, c'est plus orienté sur l'enfance, ce que j'appelle l'enfance adulte. Là, on est moins sur des personnages hors du temps, même si Letty et ainsi de suite, c'est quand même des personnages qui sont hors du temps, hors du commun. Mais on a aussi ce côté de l'enfance et des traumatismes d'enfance qu'on peut occulter aussi, bien sûr. Donc voilà. Est-ce que tu vois autre chose à dire ou est-ce que j'ai le temps de raconter Chi le panda ?
Je pense que tu peux parler de Chi en moins d'une minute.
Ouais, je pense que c'est facile. Chi le panda, c'est un petit panda. C'est un petit album pour les tout petits. Et encore une fois, c'est Neil Gaiman. C'est un petit album et puis il va à la bibliothèque et puis il y a des vieux livres et ça fait non, ça va. Ensuite, il va au parc et puis il y a du sable. Ah, ça pique le nez. Non, ça va. Ouf, et ainsi de suite, et à un moment il fait ah tchoum, et là il déclenche une tempête, il se retrouve, et là l'album il finit sur ah, c'était un bel éternuement, dis donc. Et oui, c'était un très bel éternuement. Donc du coup voilà, c'est Chill Panda, c'est un tout petit album illustré par Adam Rex il y a quelques années. Il y a Chill Panda à l'école qui était beaucoup plus classique, c'est pour ça que j'aime beaucoup le premier, moins le deuxième, et c'est génialissime. Voilà, donc j'espère que cette émission vous a plu déjà pour la première. J'espère que vous êtes bien amusés en notre compagnie. Et puis on essaie de se retrouver, on va se retrouver d'ailleurs très très vite. Quelque chose à ajouter, Valentin ?
Non, lisez des livres.
Et puis regardez les adaptations, et lisez Neil Gaiman surtout. Lisez Neil Gaiman surtout.